Bruxelles, ma Belge, Delphine Frécinet.
Et la Belgique, vue du ciel, vue de l'espace, eh bien on peut presque en dessiner la carte routière, tant l'éclairage est partout. Alors c'est pas moi qui le dis, mais l'astronome Thomas Pesquet. Petit pays, grosse lumière, gouffre énergétique, porte-monnaie des collectivités éternellement percée, plombée par ce budget et la pollution lumineuse qui nous fait presque oublier que les étoiles existent tant on ne peut plus les voir. Ben, finalement, c'est quasiment un strike de points négatifs. Et puis mettre autant de lumière, c'est mettre aussi un couvercle sur la peur du noir. La peur du noir. Comment repenser notre rapport à la nuit et donc à la pollution lumineuse? Eh bien, on en parle avec Céline Gauthier qui signe cette enquête dans Médor, le magazine indépendant de l'investigation. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors, ça paraît anodin, Céline, cette question, la pollution lumineuse, même si vous allez beaucoup mieux que moi en détailler les enjeux. Mais moi, je me demandais pourquoi vous avez choisi ce sujet. C'est quoi qui a été le déclic? Vous avez été agressé à un moment par trop de lumière. Vous avez dit, oh là là, va falloir qu'on travaille un peu là-dessus.
J'ai pas le souvenir, mais oui, peut-être que ça me touche particulièrement. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais peut-être bien cette question de ne plus voir les étoiles quand on est en ville la nuit, de se dire que c'est quelque chose qu'on pourra pas transmettre à nos enfants. Voilà, peut-être que c'est ça qui a démarré ma préoccupation sur le sujet.
Voilà, et donc là, vous démarrez donc cette enquête en faisant cette allusion donc à Thomas Pesquet, et vous nous rappelez aussi que la Belgique, mais pas que la Belgique, en Europe aussi et dans tout le monde, ça vient quand même aussi, c'est une culture, ça vient de plusieurs décennies, rapport à la luminosité, la pollution lumineuse.
Tout à fait, et en fait, c'est vrai que je me souviens, moi, quand j'étais petite, qu'on était fiers de dire que la Belgique se voyait de la Lune. C'était vraiment une source de fierté, cette question des autoroutes éclairées, c'était vraiment un synonyme de confort, de modernité. C'était ancré déjà dans notre culture, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sujet de la pollution lumineuse nous oblige un petit peu à remettre les choses à plat et à nous demander, voilà, est-ce que vraiment ça augmente la sécurité, oui ou non, ou est-ce que c'est un élément de notre culture qu'on a intégré?
Voilà, et alors là j'imagine qu'aussi dans un pays où la voiture reste aussi ancrée dans la culture, j'imagine qu'il y a aussi pas mal de détracteurs, il y a des pour et des contre.
Bien sûr, oui, il y a beaucoup de contre.
Voilà, il y a beaucoup de contre, vous allez pouvoir nous en parler, mais c'est vrai que j'ai dit que la Belgique n'était pas le seul pays qui était concerné par ça, mais c'est vraiment le bonnet d'âne en Europe ou pas?
Oui, la Belgique est l'un des pires pays, on va dire, en termes de pollution lumineuse, mais pour des raisons aussi pas uniquement culturelles, parce que c'est un très petit pays, très dense, avec un réseau routier très dense, et donc on n'a pas un immense désert de l'Atacama en Belgique qui ferait que on peut avoir des zones qui ne sont pas polluées par la lumière. Donc voilà, on est les très mauvais élèves d'Europe, même du monde. On est dans ceux qui s'en sortent le moins bien, mais il y a aussi des raisons géographiques.
Il y a aussi des raisons géographiques, voilà. Exactement. Et ça, c'est quand même aussi important de le rappeler. Alors, une fois ceci posé, quand on parle de pollution lumineuse, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, c'est uniquement les éclairages ou c'est aussi les panneaux publicitaires? Enfin, dites-nous tout.
En fait, c'est tout. Quand on parle de pollution lumineuse, en fait, on parle d'une présence nocturne anormale de la lumière. Donc, tout ce qui est surillumination, illumination vers le haut, les effets de halo qu'on voit parfois autour des villes, on a l'impression qu'il y a un halo comme autour d'une bougie.
Ouais.
La luminescence du ciel, puisqu'il y a absolument aucune raison par contre d'éclairer le ciel. Donc tout ce qui est excessif. Alors évidemment, c'est
on parle
question
même
d'appréciation.
Voilà.
Qu'est-ce qui est excessif?
On parle même pas du côté Noël et voilà.
Mais le côté Noël peut entrer dans la pollution lumineuse.
Bien sûr.
Si à un moment on est vraiment dans un excès de lumière qui se voit évidemment du ciel, mais qui peut se voir aussi.
Oui. C'est toujours un petit peu le débat justement à Bruxelles avec plaisir d'hiver.
Oui.
Ça revient assez régulièrement. Alors voilà, donc ça c'est la pollution lumineuse. Est-ce que cette pollution lumineuse, au-delà du côté, ça nous empêche un petit peu de dormir. C'est comme si on avait en fait les écrans de portable, mais en grand, puisqu'on est tout le temps surexcité, sur sollicité. Est-ce que ça a un impact sur nous et sur le vivant plus généralement.
Oui, et c'est un bon exemple, hein, une bonne comparaison, les écrans. C'est vrai que au démarrage, ce sont surtout les astronomes qui se sont préoccupés de cette question en disant attention, on ne voit plus les étoiles, c'est quand même un patrimoine de l'humanité qui disparaît. Voilà. Mais en fait, le problème est beaucoup plus grave que ça. Le problème, c'est que c'est un problème de santé publique. On a après les astronomes, ce sont tous les observateurs des animaux, on va dire, qui se sont inquiétés de cela en disant en fait, ça fait fuir les insectes et on sait que l'effondrement des insectes est un symptôme de l'effondrement de la biodiversité. Ouais. Les chauves-souris aussi, c'est un animal peut-être qui n'est pas très sympathique pour nous,
mais super utile. Hein.
Mais c'est très utile.
Comme les chouettes.
Voilà, et c'est un petit peu un animal emblématique de tous les problèmes de la biodiversité. Et on voit que les chauves-souris, comme les insectes, souffrent beaucoup de la lumière artificielle. Mais aujourd'hui, plus récemment, on voit aussi arriver des études de plus en plus nombreuses qui confirment que la santé humaine est également très fort impactée. On parle de recrudescence de cancers, de maladies cardiovasculaires et puis de tout ce qui est impacté par le stress. Ouais. C'est-à-dire énormément d'éléments de notre santé qui peuvent être aggravés par le manque de sommeil et le stress qui sont évidemment amplifiés par la lumière.
C'est ça. Et là, on parle même pas de gens qui travaillent de nuit. Ce sont des gens qui, comme vous et moi, normalement, sommes censés dormir la nuit et qui peut-être ne peuvent plus, justement, à cause de cette pollution lumineuse.
Exactement.
Et ça, quand on en parle et quand les interlocuteurs que vous avez rencontrés, donc bien sûr, vous ont alerté, ont montré ces études-là, mais après, quand vous en parlez à d'autres décideurs, ils sont un peu conscients ou ils se disent ouais, « ça va, c'est qu'une étude, c'est pas très grave
». C'est difficile de nier aujourd'hui l'évidence scientifique de cela, mais je pense que les décideurs politiques Bruxelles et en Wallonie, ils ne sont pas encore très sensibilisés à ça. J'avais regardé dans les déclarations gouvernementales de la législature qui se termine maintenant et ce mot, enfin cette expression pollution lumineuse n'apparaît nulle part à Bruxelles et en Wallonie. Ce qui est quand même étonnant, on commence à se préoccuper de la pollution par les ondes électromagnétiques, par la pollution au bruit qui commence à faire du bruit.
Oui, c'est vrai.
En tout cas à préoccuper, mais cette pollution-là n'est pas encore tellement l'objet d'une grande attention et aussi parce que on a cru à tort que en diminuant notre impact énergétique on réglait le problème.
D'accord.
Or il y a deux problèmes différents.
Oui, c'est vrai, il y a pas juste le côté économique et énergétique.
Voilà. Le problème énergétique, c'est un impact carbone qu'il faut diminuer.
C'est sûr.
Mais si on diminue cet impact, donc si on diminue la consommation, par exemple, en passant à des ampoules qui consomment moins comme les ampoules LED, on ne diminue pas forcément le problème de luminescence.
D'accord, donc, c'est-à-dire si on la change luminosité toutes les ampoules, sera moindre, mais il y aura quand même la luminosité.
Mais la luminosité ne sera pas forcément moindre, surtout si on se dit comme ça ne coûte presque plus rien, on ajoute des ampoules.
Ah ben voilà.
C'est ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années. Toutes ces petites guirlandes OLED qui ne consomment absolument rien, ben on a envie de les mettre partout dans la maison, surtout en fin d'année, mais aussi à l'extérieur. Et donc on se met à illuminer nos jardins, pour ceux qui en ont, les arbres. Et il y a une surconsommation, en fait, de lumière et pas d'énergie. Oui. C'est ça qui est préoccupant.
C'est ça qui est préoccupant et c'est ça où on n'arrive pas forcément à faire le distinguo.
Non.
On se dit, c'est pas très très grave. Du moment que ça coûte moins cher et qu'on pollue moins,
exactement,
ça va.
Oui.
Sauf que ça va pas.
Voilà.
Ouais. Vous parliez effectivement de la santé et de ces études-là et les personnes qui justement sont aussi sujettes à ces problèmes de santé, qui ont été victimes de ça, elles prennent conscience que, d'accord, ça vient de là. Je ne savais pas que je pouvais être malade par trop de lumière, par trop de luminosité.
Honnêtement, je n'ai pas rencontré de groupe de patients ou de malades qui feraient ce type de lien. Et je pense aussi que de toute façon, il faut quand même être assez prudent parce que les maladies sont multifactorielles. Donc c'est un élément, et ça c'est pas moi qui le dis, la revue Science avait fait tout un dossier là-dessus en répertoriant toutes les études. Donc il y a un lien, mais par contre le faire sur des cas précis, ça je pense que c'est quand même vraiment délicat, mais on sait que les travailleurs et travailleuses de nuit sont impactés de par leur horaire décalé, mais aussi parce qu'ils sont soumis à la lumière artificielle pendant toute la nuit.
Bah oui, effectivement, et le corps a besoin de dormir la nuit.
Exactement.
La vraie nuit. Oui. Voilà. Oui. Ouais, ouais. Et le fait aussi, peut-être que on ne sache plus quelle est la nuit, quel est le jour, ça permet aussi d'être, comment dire, d'être déconnecté. C'est peut-être aussi toutes les conditions de travail où on est toujours ultra connecté avec tous les canaux qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, on n'a plus la notion du temps.
Non.
Ça, c'est aussi, c'est important.
Tout à fait. Mmh. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est toutes les lumières qu'on met dans la chambre des enfants.
Oui. La peur du noir.
La peur du noir. Oui, mais cette peur du noir est aussi une construction.
Bien
sûr. Une construction. Non, peut-être qu'il y a quelque chose.
Et puis il y a des enfants qui n'ont pas peur du noir aussi.
Dîner, hein. Mais en tout cas, on éduque plus les enfants à apprivoiser l'obscurité. On se dit voilà, et ça ne coûte pas très cher, donc on met une lampe dans la chambre, alors que c'est très mauvais.
Oui, alors que c'est très mauvais et qu'eux aussi doivent apprendre à grandir en gérant leur peur. Mais c'est vrai que Céline Gauthier, quand on parle de pollution lumineuse, on a tout de suite l'idée de la ville, forcément. Est-ce que dans les campagnes, dans les plus petites bourgades, ça existe aussi?
Oui, en fait, en Belgique, on voit que tout le territoire est impacté. Alors évidemment, les zones où il y a des grandes forêts, sont des zones où on trouve encore de l'obscurité, mais les petites villes qui sont à côté de ces forêts sont aussi concernées, et je pense que aujourd'hui la question devrait concerner toutes les autorités publiques, que ce soit dans les grandes villes ou ailleurs, dire est-ce que cet éclairage est nécessaire, est-ce qu'on peut éventuellement le diminuer, est-ce qu'on peut l'enlever, et s'il y a un doute sur cette question, est-ce qu'on peut en parler avec les habitants et voir comment on peut trouver peut-être une solution intermédiaire ou un terrain d'entente.
Ah oui, alors c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la place Flagey. Je sais que parfois, les gens là-bas se renvoient un petit peu la balle. Non, ça c'est au fédéral, c'est à la région et tout ça. Et des fois, il y a des problèmes d'éclairage et ils disent il y a un vrai problème pour la sécurité des personnes qui passent, qui n'ont pas assez de lumière pour pouvoir marcher en toute sécurité. Donc, ça pose aussi cette question-là quand même.
Mais alors ça, c'est l'argument qui est toujours avancé. Dès qu'on parle de pollution lumineuse et de diminuer l'éclairage public, on arrive toujours avec l'argument de la sécurité.
Ouais.
Ça va provoquer des accidents et ça va provoquer de la criminalité. Et en fait, il faut quand même être très prudent avec cet argument parce que, par exemple, pour l'augmentation de la criminalité, ce n'est absolument pas avéré.
Ouais.
Et donc là, il y a des études, de nouveau, qui commencent à s'accumuler et qui montrent que non, il n'y a pas plus d'agressions, il n'y a pas plus de vols quand la lumière est moindre.
Ouais.
Tout simplement, si la lumière protégeait des agressions, des vols, ça se saurait en fait. Hein. Il y a eu une époque où c'était vraiment une arme pour la sécurité. On mettait des lumières partout dans l'espace public en pensant qu'on allait faire fuir la criminalité. Mais ça n'a pas du tout marché.
Ouais.
Donc ça c'est très clair. Maintenant, il y a le sentiment de sécurité. Et c'est vrai que se promener dans des rues très sombres... Alors parfois, évidemment, s'il y a des obstacles, il faut quand même qu'on puisse les identifier. Ouais. Donc personne ne dit qu'il faut plonger les villes dans le noir. Ça, c'est évident. Mais parfois, une lumière plus tamisée suffit amplement à ce qu'on se sente en sécurité, qu'on voit quand même vers où on va, qu'on voit s'il y a quelqu'un qui arrive. Parce que c'est ça qui peut être effrayant, c'est de ne pas voir...
Oui.
Les personnes
ou mettre sur la route ou sur des points, sur des murs, des lumières réfléchissantes,
oui, ou des lumières plus,
par exemple, pas des lumières, des peintures phosphorescentes réfléchissantes, par exemple, comme on le voit sur la route, justement sur la route, en termes de sécurité, est-ce que ça garantit la sécurité?
Non.
On s'en doute quand même. On se dit tiens, normalement, si je vois mieux sur la route, je ferai plus attention. Et vous nous dites non.
Non, en fait, ça c'est vraiment aussi
le gros
argument qui a été utilisé même pendant des décennies en Belgique, en Wallonie. Pour continuer à éclairer, au départ pour équiper tout le réseau autoroutier d'un éclairage, et puis pour continuer à soutenir ce réseau, parce que ça demande de l'entretien, ça génère une consommation énorme, et puis il a fallu changer les ampoules au sodium, donc il y a quand même vraiment un gros investissement financier de la part des pouvoirs publics pour poursuivre cet éclairage. Et en fait, c'était une évidence pour tout le monde que ça favorisait la sécurité. Mais en fait, c'est pas du tout démontré.
Ouais.
Et des pays comme le Luxembourg, le Grand-Duché, qui éclairait ses autoroutes comme nous, a décidé de démanteler les poteaux sur les autoroutes et de laisser uniquement l'éclairage là où il y a des échangeurs, des sorties, etc.
Voilà,
parce
que au point stratégique,
voilà, on sait que c'est à ces endroits-là qu'il y a des accidents. Mais par contre, sur les tronçons les plus linéaires, on voit en fait que l'éclairage ne diminue pas le nombre d'accidents et que, au contraire, parfois certaines études suggèrent même que ça pourrait augmenter le nombre d'accidents parce que quand on voit bien,
on est moins vigilant.
Voilà, on est moins vigilant et on peut avoir tendance à adopter des comportements plus risqués, comme à consommer de l'alcool, etc. Qui sont évidemment ça des facteurs de risque évidents et surtout rouler plus vite aussi parce qu'on se sent en sécurité.
Ouais.
Donc en fait, voilà, il faut vraiment déconstruire ces idées. Que lumière égale sécurité. Ce n'est pas toujours vrai.
Ouais, bah, ils l'ont fait au Luxembourg, donc peut-être qu'on pourrait le faire ici.
Peut-être, oui.
Voilà, on va voir ça. On va continuer à parler de sécurité, en particulier pour les femmes, après cette pause musicale. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. All we are is here. Stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Sunlight into our lives, but keep the storm that's in your eyes. Let's put some light into light. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? City Lights, c'était Blanche. On continue donc de parler de cette enquête sur la pollution lumineuse signée Céline Gauthier dans le magazine Mais Dehors, le magazine indépendant d'investigation. Et alors, pour continuer à parler de cette pollution lumineuse, eh bien, donc, on va continuer à parler de sécurité et particulièrement la sécurité en ville. Vous en avez dit un petit mot, Céline Gauthier. On a l'impression, c'est en tout cas l'impression général, on va dire, que tout le monde a, que s'il y a plus de lumière, eh bien, ça va faire fuir les agresseurs. Vous nous avez dit, c'est pas vrai.
Non, c'est malheureusement pas vrai.
C'est malheureusement pas vrai. Ça serait trop simple.
Ça serait trop simple.
Ça serait vraiment beaucoup trop simple.
Mais voilà.
Et la sécurité, c'est vrai que quand on parle du soir, de la nuit, on pense à la sécurité de tout le monde. Ben, enfin, vous et moi, quand nous sortons, on aime bien quand même l'idée de pouvoir rentrer en un seul morceau chez soi.
Oui.
Donc, la sécurité des des femmes, c'est aussi quand même l'enjeu de cette pollution lumineuse, oui. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser tout ça.
Oui, c'est sûr que si on dit que demain on va... Et c'est ce qui s'est passé en fait l'hiver dernier, parce que pour des raisons budgétaires et énergétiques, donc on a décidé dans beaucoup de villes de Wallonie d'éteindre complètement la lumière à certaines heures, sans concertation et sans modalité intermédiaire. Donc c'est pas on diminue l'intensité, c'est voilà, on a fait on-off et voilà. On a éteint complètement.
On a fait jour-nuit.
Voilà, jour-nuit,
c'est bon.
Okay. Et donc forcément, ça génère des craintes et ces craintes, c'est souvent j'ai peur pour ma fille, j'ai peur pour ma femme, j'ai peur pour moi qui suis une femme. Ça c'est très lié au genre en fait cette question et c'est très lié aussi à une idée qu'on a et qui est aussi en partie fausse, c'est la peur du viol, la peur de l'agresseur caché dans un buisson qui va nous sauter dessus parce qu'on ne l'a pas vu. Et on sait bien que, en fait, le viol, la plupart du temps, ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. Et ça se passe au contraire.
C'est pas dans un parking, pas dans
voilà,
une ruelle. Mais la majorité des viols, ce sont des gens que nous connaissons.
Exactement. Ça se passe dans des maisons, etc. Oui. Mais donc, cette peur et ce cliché est très, très, très ancré, y compris dans la tête des femmes qui ont appris à avoir peur. Et donc, les femmes en viennent aussi à réclamer parfois de la lumière. Et il faut tenir compte de cette peur. Parce que même si elle n'est pas toujours objectivable dans les faits, dans les statistiques policières, on ne peut pas répondre aux gens « tant pis si vous avez peur
voilà. ».
L'idée, c'est qu'on puisse se sentir toutes et tous à l'aise dans l'espace public. Donc, il faut absolument tenir compte
de ces données. Effectivement, il y a le côté objectif, comme vous le disiez, puis il y a le ressenti. C'est vrai que vous aurez beau me dire « attendez, non, objectivement, il n'y a pas plus de cas ». Si je vous dis « oui, mais moi, je ressens un manque de sécurité », vous ne pouvez pas aller contre ça. Et c'est important de le respecter. C'est surtout aussi que ça pourrait être une porte ouverte pour certains esprits obscurs, pour le cas, obscurantistes, masculiniste, de renvoyer les filles à la maison en même temps. Hein ?
Mais c'est sûr que voilà, la présence des femmes dans l'espace public, c'est un enjeu d'égalité très important et on voit qu'on n'y est pas. Hein. Donc, j'étais tombée sur une étude qui montrait bien que les filles, les petites filles sont présentes dans l'espace public avec leurs parents qui surveillent les jeux, etc. Et puis, au début de l'adolescence, on voit que les filles disparaissent en partie de l'espace public et que quand on construit ou quand on met à disposition des équipements pour jeunes et adolescents, en fait, ce sont des équipements pour garçons. Et les filles les utilisent beaucoup moins et sont un peu renvoyées par leurs parents, par la société, par l'absence d'équipements qui les intéressent à la maison.
Ouais, et ça se joue déjà aussi à l'école où on voit bien des fois que dans les écoles, ce sont les petits garçons qui occupent toute la cour pour jouer au foot et les petites filles qui sont un peu reléguées sur le côté.
Voilà.
Et il y a aussi ça, pareil, effectivement, bien sûr, dans les places publiques et ceci en pleine journée. Donc, imaginons la nuit.
Oui, donc il faut absolument écouter les femmes quand il s'agit de réaménager un espace public ou de repenser la lumière d'un espace public, de voir ce qui peut les rassurer pour occuper cet espace public. Et on voit qu'en fait, si on pose la question comme ça de but en blanc, beaucoup vont dire il faut de l'éclairage, mais que quand on affine un petit peu, en fait souvent c'est un peu plus complexe que ça. C'est quelque chose qui est assez mal perçu, par exemple, ce sont les contrastes. Quand on est dans des rues très éclairées et puis qu'on doit traverser, emprunter une ruelle qui est très sombre, ce contraste-là fait peur.
Il est déstabilisant, c'est vrai,
voilà.
Parce que ça passe vraiment, c'est brutal.
Voilà.
Le contraste est brutal.
Et donc ces contrastes-là, ils sont très mal vécus. Par contre, si on décide de mettre partout une lumière de basse intensité qui permet de voir, mais qui n'éblouit pas, qui est plus douce, qui est plus ce qu'on recherche en fait dans nos intérieurs. Je prenais la comparaison dans l'article. On n'éclaire pas son salon avec des gros néons.
Non.
On aime bien, un soir d'hiver, avoir petites lumières tamisées.
Oui.
Ce qui suffit pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis, mais qui en même temps ne nous éblouit pas. Et en fait, on peut faire la même chose dans les villes. Créer une ambiance tamisée qui est rassurante, qui permet d'éviter les obstacles, de voir un peu qui vient en face de nous, mais qui n'éblouit pas, qui n'éclaire pas le ciel. et qui est le moins possible intrusif aussi dans les habitations autour, parce que c'est aussi un vrai problème.
Il y a ça aussi, mais c'est vrai que ça pourrait aussi avoir un impact dans les relations, ne serait-ce que des gens, parce que si on se sent pas en situation d'agression, si on sent dans un contexte de sécurité, on aura peut-être moins tendance à sauter sur l'autre si quelqu'un nous parle, vous voyez, il y a tout ça, il y a tout ce côté électrique aussi qui joue. Mais alors justement, je me demandais, Céline Gauthier, puisque cet aménagement, c'est aussi le rôle des urbanistes. Le fait qu'on soit urbaniste, homme ou femme, ça joue beaucoup ou pas ?
Bon, je ne veux pas faire de généralité.
J'ai pas envie non plus, mais est-ce qu'il y a des détails ? Est-ce qu'il y a des points quand même où elles ont plus le réflexe auquel un homme n'aura peut-être pas pensé ?
Je peux pas répondre à la question de manière générale, mais c'est vrai que moi j'ai rencontré une femme urbaniste qui se dit urbaniste de nuit. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme ? Je n'en sais rien, mais elle a pris conscience, en tout cas, de ces enjeux de genre. Mm-hmm. Et elle a pris tout à fait cet enjeu à bras-le-corps. Et elle s'est dit, mais voilà, il faut qu'on crée des éclairages urbains apaisés. Donc, et elle me disait, la plupart des éclairagistes, donc c'est un métier de concepteur d'éclairage, la plupart des éclairagistes sont quand même dans une tendance à la modération de l'éclairage. Tout simplement parce qu'en fait, ils cherchent à créer des ambiances chaleureuse et qu'un éclairage intense, ce n'est pas chaleureux, c'est pas confortable. Et donc, il y a de toute façon cette tendance, mais elle allait vraiment dans cet esprit des marches exploratoires qui, au départ, viennent plutôt des milieux féministes et qui consistent à consulter la population sur comment elle se sent dans les différents environnements urbains, ce qu'elle est prête à accepter comme diminution de l'éclairage, comme extinction, voire ce qu'on peut trouver comme compromis. Et parfois, c'est pas l'éclairage en fait qui va être l'élément qui favorise la sécurité, mais parfois il y a d'autres éléments. C'était un exemple de l'association Garance qui fait beaucoup des marches exploratoires, qui disait simplement la façon dont on dispose les bancs publics, que ce soit le long des chemins ou perpendiculairement au chemin, on va se sentir plus ou moins observé.
C'est vrai.
Et ça change déjà quelque chose. Donc parfois, ce n'est pas l'éclairage qui est l'élément.
Ce sont des détails d'aménagement. Voilà. Il ne faut pas que ce soit l'éclairage qui cache la forêt de tout le reste en termes de sécurité.
Et donc voilà, il y a moyen d'essayer par le compromis, par la discussion et par l'information. Parce que si on n'informe pas les citoyens et les citoyennes, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de diminuer un peu l'éclairage public ? Forcément, il y a des levées de boucliers. Mais si on informe tout le monde et qu'on essaye de tenir compte des différents éléments, la protection de la faune, la protection de notre santé, la protection des étoiles et notre besoin de se sentir en sécurité, là, il y a moyen alors de créer des éclairages publics qui sont plus apaisés et qui peuvent... comment est-ce que Isabelle Corten, donc cette urbaniste de nuit, parle d'augmenter le bonheur nocturne pour tout le monde.
C'est une belle expression. Le bonheur nocturne, c'est une très très belle expression. Voilà, donc j'invite les auditeurs à lire vraiment votre enquête, vraiment bien bien fouillée, bien documentée. Céline Gauthier dans le magazine Médor. Le magazine Médor, pour ceux et celles qui l'auront vu en kiosque, ils auront peut-être été interloqués. Il y a un trou au milieu, je trouve que c'est important qu'on le rappelle. Il y a un trou au milieu, et bien pour montrer que le budget de Médor se réduit un petit peu à peau de chagrin et que la situation devient un peu compliquée pour Médor.
Voilà, on a un trou dans notre budget qu'on voudrait combler par de nouveaux abonnements. Donc voilà, il y a moyen, on a un plan financier qui tient tout à fait la route, mais on a besoin de nouveaux abonnés maintenant. Donc ça, c'est vrai que si on peut inviter les auditeurs et les auditrices à foncer sur medor.coop pour s'abonner, ça, ce serait évidemment un pas décisif, ou en tout cas se procurer le magazine en librairie. Il est reconnaissable grâce au trou.
Exactement.
En effet.
Voilà, Médor, même pas mort, et c'était important de mettre la lumière sur ce point-là.
Merci
beaucoup, Céline Gauthier.
Merci à vous.